Donc, on n'avait pas pu terminer la dernière fois le rappel du contenu de l'épître de 1 Pierre, et puis c'est ce qu'on va faire ce soir. Et simplement, comme rappel aussi, le thème central de cette lettre, c'est souffrir pour Christ. Hein, on pourrait résumer un peu cette lettre de cette manière-là, souffrir pour Christ. Alors, on avait vu comme rappel deux points. Pierre entame cet épître en rappelant aux croyants qu'ils ont reçu un appel glorieux et un héritage céleste en Jésus-Christ. Et deuxième point qu'on avait vu, que leur foi et leur amour ici-bas sont sujets aux épreuves et au criblage, mais qu'à l'apparition du Seigneur, ils obtiendront louange, gloire et honneur. On va avoir encore deux autres points, on rappelle du contenu de cet épître, que le troisième point donc, que ce grand salut avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et puis là, s'il y a quelqu'un qui peut simplement relire les versets, donc au chapitre 1er, 1 Pierre 1, les versets 10 à 12.
Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard.
Voilà. Donc, on a un grand salut qui nous a été annoncé déjà au travers des prophètes de l'Ancien Testament. Et ces prophètes qui, bien sûr, ont aussi écrit des livres, hein, c'est pour ça qu'il nous est resté des choses. On verra dans la deuxième épître de Pierre aussi toute l'importance de l'autorité des Écritures. Je pense pouvoir aborder un peu ce point déjà ce soir. Et puis, comme quatrième point, que les croyants doivent mener des vies sanctifiées en se démarquant clairement du monde dépravé qui les entoure. Ça c'est les versets, bon, on va peut-être pas tout lire parce que c'est 1 à 13 au verset 21. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Hein. Ça, c'est aussi un thème assez central de cet épître. Hein. On est des pèlerins sur cette terre et comme tout pèlerin, ben voilà, on a une vie assez sobre entre guillemets et puis qui n'est pas épargné par la souffrance. Un pèlerin, il se promène pas avec une armure blindée, hein, et puis il a une vie qui des fois est rude parce qu'il est confronté à la dureté de la météo. Voilà. Donc, toujours un petit peu en rappel du contenu de la lettre. Les croyants élus et sanctifiés sont des enfants en pleine croissance qui ont besoin du lait pur de la parole. Ça, c'est 2, c'est chapitre 2, versets 1 à 3. Si il y a quelqu'un qui veut lire. 2, 1 à 3.
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté, que le Seigneur est bon.
Merci.
C'est deux pierres.
Ça, c'est toujours un Pierre. Non, non, on est toujours dans un Pierre. On est en train de terminer, en rappelant un petit peu le contenu de la lettre. Voilà. Donc, on a besoin du lait pur de la parole, hein, pour grandir et puis pour être fortifié dans notre foi, hein, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il y a une croissance pour le salut. On est appelé à grandir dans le Seigneur et dans notre connaissance aussi du salut. Alors les croyants sont aussi des pierres vivantes qui servent à la construction progressive d'un édifice spirituel. Ça, c'est les versets suivants, mais bon, on va pas tout lire ça, hein. Et comme je le disais avant, là on retrouve, hein, ce passage, des voyageurs qui traversent un pays étranger. Ça, on peut lire 2 versets 11 et 12. Peut-être on va dans ce sens-là. Peut-être à Claude, puis comme ça.
Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il y a une bonne conduite parmi les païens, afin que tandis qu'ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, en vous observant à cause de vos bonnes œuvres, il glorifie Dieu au jour de la visitation.
Merci.
C'est la version barbiste.
Non, c'est bon.
Alors moi j'ai « et glorifie Dieu au jour où il les visitera hein? ». Parce que c'est vrai que des fois quand on a un comportement chrétien, on ne nous glorifie pas tellement. Hein? Par contre, le jour où ils sont visités, ils vont nous être reconnaissants aussi d'avoir été témoins du Seigneur. Alors, je continue toujours un petit peu le résumé. Durant ce périple, ils doivent vivre honorablement et humblement dans leur rapport avec toutes les personnes qu'ils rencontrent durant leur pèlerinage terrestre. Là, on a les versets 13, donc 2, 13, ça correspond jusqu'à 3, 12. Et dans ce passage, on avait la question de la soumission au gouverneur et au maître. On avait la question de la relation entre femme et mari. Hein. Voilà. Le message principal qui ressort de la première épître de Pierre traite de la soumission et de la souffrance juste pour la cause du Christ, selon l'exemple qu'il nous a laissé. Pierre assure les croyants que parce qu'ils ont souffert injustement, ils obtiendront la faveur et les récompenses de Dieu. Dans le contexte de cet enseignement au sujet des souffrances endurées pour Christ, Pierre insiste principalement sur les thèmes interdépendants du salut, de l'espérance, de l'amour, de la joie, de la foi, de la sainteté, de l'humilité, de la crainte de Dieu, de l'obéissance et de la soumission. Ça, on verra aussi dans la deuxième épître de Pierre, c'est quelque chose qui ressort, ces thèmes-là, hein, qui sont en effet liés au salut. Donc l'espérance, l'amour, la joie, la foi, la sainteté, l'humilité, la crainte de Dieu et l'obéissance, ainsi que la soumission. Alors voilà, moi j'aurais un peu terminé pour cette première épître de Pierre. Je ne sais pas s'il y a un commentaire ou un autre de votre part. Juste, je relis là le verset 10 dans 1 Pierre 5, qui est quelque part aussi un bon résumé de l'épître. Hein. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est quand même la grâce du Seigneur, parce que quand on passe par des moments difficiles, ben avec Dieu, ça va nous rendre inébranlable, hein. Ça va nous fortifier. Cette souffrance dure un peu de temps. À vue humaine, elle est longue, hein. Elle peut être longue, hein. Mais à la vue du Seigneur, c'est court. C'est vrai qu'on n'est pas épargné en tant qu'enfant de Dieu de passer par la souffrance. Mais le Seigneur est là dans nos temps difficiles. Et ça, c'est quand même une grâce de se dire que, oui, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, Dieu peut nous affermir. Ça, c'est quelque chose de chouette quand même, hein, que savoir que l'épreuve peut parfois malheureusement éloigner des gens du Seigneur, ça arrive. Mais quand même, la majorité des cas, l'épreuve va amener la personne à se rapprocher du Seigneur. Et puis, bon, je sais pas, j'ai pas un exemple comme ça qui me vient en tête, mais on pourrait s'imaginer que quelqu'un passe par quelque chose de difficile et puis on veuille au Seigneur, puis peut-être plus tard passe par quelque chose encore de plus difficile, puis tout à coup revient à la foi. Hein, parce que tout d'un coup, la personne va réaliser, non, mais c'est quand même ça l'essentiel de l'existence humaine. La vie, c'est pas seulement gagner mon pain, vivre une vie épanouissante, il y a quelque chose de plus, hein. Et je pense qu'on peut, bon, je pense qu'on est suffisamment convaincu pour cela, mais on peut chercher de par le monde entier, qu'est-ce qui peut donner plus de sens que Christ, hein? Qu'est-ce qui peut donner plus de sens à une vie humaine que de croire en Dieu? Alors le monde rigole, hein? Mais nous, on sait que notre espérance, elle est fondée sur Dieu lui-même. Et voilà. Ouais. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques.
Il dit le monde rigole, mais le monde rigole jusqu'à ce que la mort se fasse, montre son visage. À partir de là, on commence un peu à se poser. Si on a le temps, hein, évidemment, de se poser ces questions existentielles. Hein. C'est ce qui était rappelé aujourd'hui à l'enterrement j'ai été là. C'était vraiment, le message était vraiment très bien, quoi. Pour justement des gens qui sont pas croyants, j'ai trouvé que c'était bien, parce que c'était justement de ce rappel finalement de la mort, mais de l'espérance vivante qu'on a en Christ en tant que chrétien. Donc une espérance, normalement, c'est quelque chose qu'on va essayer de, enfin qu'on espère, mais vivante, c'est ce qu'il disait le pasteur en question, c'est quelque chose qui est palpable, c'est vivant, c'est une espérance qui vit, c'est pas une espérance dont on attend, oui on l'attend, mais elle est vivante.
Ouais, te donne des forces, du courage, voilà, pour aller de l'avant, même justement dans les souffrances.
Voilà, c'est l'espérance totale de cette vie.
D'autres marques. Bon, alors si c'est pas le cas, on boucle définitivement 1 Pierre. Si jamais vous retrouvez tout le contenu de l'étude qu'on a fait, même en version écrite, sur notre site d'église. Donc on a fait quand même un joli parcours, hein, que j'ai vu, ça fait une trentaine de pages à 4, hein, qu'on a fait, on dirait pas, hein, comme ça. Mais il y a une trentaine de pages à 4, et puis voyez, hein, c'est pas, j'ai pas écrit avec large espace et puis grande écriture. Donc on a fait du travail. Et puis tout ce qui a été dit là, ben, n'a pas été écrit, hein, en plus, hein, les commentaires. Donc il y a aussi toutes les versions audio. Alors voilà. Hein. si ça peut une fois peut-être servir, hein, une fois ou l'autre, qui sait. Et puis même, si une fois il y a quelqu'un qui on peut y penser, hein, on a quand même beaucoup sur notre site internet, beaucoup d'enseignements aussi, et puis ces études, ça peut aussi intéresser des personnes, hein, d'aller écouter l'audio, hein, directement. À l'époque d'internet que nous vivons, en un clic, on accède à beaucoup de choses. Alors, on va passer à la deuxième épître. Donc, l'introduction là que je vais vous lire, comme d'ailleurs celle d'avant, je l'ai pris aussi là dans la Bible, Esprit et Vie, parce que je trouve que c'est des assez bonnes introductions. Et puis après, j'ai pris également un petit peu, comment dire ça, chaque chapitre sont détaillés. Et puis, ben, ce détail-là, je l'ai repris aussi. Je l'utilise pour structurer après un petit peu. C'est vraiment une grande structure comme ça, en général. Mais ça structure un petit peu l'étude. Et puis après, ben, voilà, après on rajoute plein de choses, quoi. Donc, l'auteur de cet épître, eh ben, vous l'avez deviné, c'est Pierre. La date de rédaction daterait donc entre 66 et 68 après Jésus-Christ. Le thème ici, c'est la vérité fidèle en opposition au faux docteur. Donc, je vous lis un petit peu par rapport au contexte historique. Dans sa salutation, Simon-Pierre se présente comme l'auteur de cette lettre. Il fait plus loin la remarque que c'est la deuxième lettre qu'il écrit à ses lecteurs. Hein, ça, on le voit en 3, verset 1. Indiquant qu'il s'adresse aux croyants d'Asie mineure qui avaient reçu sa première lettre. Donc, on voit aussi en 1 Pierre 1, verset 1, que voilà, Pierre s'adresse aux croyants d'Asie. Hein. Puisque Pierre, à l'instar de Paul, fut exécuté suite à l'édit de l'empereur Néron, qui mourut lui-même en juin de l'année 68, il est fort probable donc, que Pierre ait composé cette lettre entre 66 et 68, quelque temps avant son martyr à Rome. Certains érudits des temps passés et modernes, ignorant les similitudes notables qui existent entre 1 et 2 Pierre, ont plutôt choisi d'examiner les différences entre les deux, et ils ont conclu que Pierre n'était pas l'auteur de cette épître. Toutefois, les différences de contenu, de vocabulaire, d'accentuation et de style littéraire entre les deux écrits peuvent s'expliquer en considérant les différentes circonstances liées à la composition des lettres, tant au niveau de Pierre que de ses lecteurs. Donc au niveau des lecteurs, les destinataires étaient passés d'un contexte de grave persécution de la part de la société. On se rappelle que c'était aussi un des buts d'un Pierre, de préparer les chrétiens à affronter les persécutions. Donc, ils étaient passés de ce statut-là à un autre statut d'une attaque interne virulente émanant de faux enseignants qui menaçaient les bases même de la vérité et de la droiture au sein de l'Église. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des faux docteurs et des faux enseignants et des faux enseignements aussi dans l'Église. C'est de l'Église primitive. Des fois, on est nostalgique de l'Église primitive, mais en fait, dès le début, le combat était là. Le diable ne s'est pas dit « Oh, bon, mince, je me suis fait dépouiller à la croix, je reste là. » Alors, les circonstances étaient également différentes pour Pierre. S'il avait pu compter sur l'aide de Silas dans la composition de la première lettre, on avait vu en 1 Pierre 5:12, il semble que Silas n'ait pas été disponible au moment de la rédaction. Pierre a dû faire appel à son grec galiléen assez rudimentaire ou un secrétaire beaucoup moins éduqué que Silas. Bon, mister, après là-dessus, on n'apprendra pas la réponse. peut-être que les théologiens se battent là-dessus. Mais bref, pour dire que ce n'est pas parce que deux lettres sont écrites d'une manière un petit peu différente qu'il faut tout de suite en déduire que ce n'est plus le même auteur. Hein. Et puis ça, ben je pense que suivant dans quelle faculté de théologie, on tiendra mordicus que, c'est, voilà, que la deuxième épître de Pierre n'a pas été écrite par Pierre. Hein, vu l'œuvre, après ils vont faire des grandes théories dans tous les sens.
Ils n'étaient pas là.
Nous c'est non facile. Plus. Voilà, hein, on peut faire plein de commentaires, ça c'est clair. Par contre, vous verrez que la, simplement déjà la structure de la, du premier chapitre, c'est quand même pas rien comme elle est structurée. Donc voilà, il y a quand même, on peut dire peut-être Pierre, ouais, ce saint pêcheur. Mais en tout cas, comme il a structuré sa première, son premier chapitre, costaud, hein, parce que c'est pas, ce ne serait pas à la portée du premier étudiant, voilà, qui serait juste un débutant, de coordonner le premier chapitre comme il l'a coordonné.
Oui, mais moi, j'ai juste une petite chose, c'est que quand même à la Pentecôte, ils ont quand même ils ont les disciples ou les, qui sont devenus apôtres. Mm-hmm. C'était effectivement des ouvriers, c'était des gens peu instruits, mais à la Pentecôte, ils ont quand même reçu le don de langues, notamment de langues étrangères, où ils se sont mis à parler des langues, le latin, le grec ou des choses comme ça, donc, et sans l'avoir appris. Donc on peut imaginer quand même que l'instruction elle est venue par le Saint-Esprit au moment à la Pentecôte, aussi pour eux, ce qui fait quand même qu'ils auraient quand même, une instruction. De pousser que d'être de prendre des poissons.
Je crois pas qu'il faille le regarder comme ça. Ces langues qui ont été données à la Pentecôte, c'était pas occasionnel, mais c'était directement par l'esprit, mais pas pour l'usage d'écriture ou de lire des livres. C'est autre chose. C'est un don spirituel donné pour l'occasion. Je ne crois pas qu'il faille le prendre comme un don de langue, comme on les apprend. Voilà, je ne voudrais juste pas allonger, mais juste dire ma pensée.
Moi, j'avais lu un texte, un commentaire qui parlait justement de ça. Je ne sais pas si...
Alors, bon, c'est vrai que d'un côté, les gens qui étaient là, ils comprenaient, parce que pour une partie, voilà, on peut s'imaginer qu'ils parlaient dans une langue étrangère qui leur était inconnue, mais que vu que... il y avait des étrangers à ce moment-là à Jérusalem, ils comprenaient, hein, vu que c'était une fête juive.
Ils le disent, comment ça se fait qu'ils parlent dans l'autre langue.
Et puis de l'autre côté, c'est clair qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit aussi, comme Jésus lui-même était baptisé dans le Saint-Esprit, il n'a pas été rendu plus intelligent à ce moment-là. Simplement, il a reçu l'onction pour le mandat qui lui était demandé. Et les disciples, à ce moment-là aussi, ont reçu l'onction pour pouvoir œuvrer au nom du Seigneur. Et quand les gens vont entendre Pierre dans le premier discours qu'il va faire à Jérusalem, les gens, il y en a, ils vont être scotchés, quoi, parce qu'ils vont dire, mais attends, c'est God, il n'a aucune instruction, puis il nous parle avec une pleine autorité.
La parole, le rappel, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu.
Ouais,
ouais. Donc, ils étaient illettrés, certains, poussés par le Saint-Esprit, ils ont pu écrire.
Bien sûr. D'autres voilà. comme on verra... parce qu'on a parlé d'un certain Marc, hein, aussi la dernière fois, qui a aidé à la rédaction de 1 Pierre.
Marc-Jean-Marc.
Ouais. Non, c'était Silas, je me suis trompé. Je ne sais plus pourquoi on avait parlé de Marc. Ah, mais parce que oui, je sais, je me rappelle maintenant. On avait parlé de Marc parce qu'il était dans les salutations finales. Il y avait Marc qui vous salue bien, dans 1 Pierre. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver ça, mais je crois que c'était dans les salutations. Oui, voilà. 1 Pierre 5, verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc ce Marc, ce serait peut-être le même Marc qui a écrit l'évangile de Marc. C'était quelqu'un qui semble, c'est tout des suppositions, hein, qui venait quand même d'une famille assez aisée à Jérusalem, donc il avait aussi certainement reçu une éducation. Et puis on a Paul, hein, on en avait parlé de Paul c'était un érudit, Donc on a des gens qui ont écrit le Nouveau Testament. Certains ils venaient entre guillemets vraiment du terreau, et puis d'autres c'était des académiciens entre guillemets. Hein. Dieu a utilisé les dons et les qualités les uns des autres quoi. Hein. Donc le but de cette lettre. Pierre écrit afin d'exhorter les croyants à chercher avec diligence la piété et la connaissance véritable de Christ. Et deuxième but, pour exposer et désavouer les activités insidieuses des faux prophètes et des faux enseignants au sein de l'Église mineure qui minaient la vérité apostolique. On verra un peu ce que c'est que cette vérité apostolique. Pierre résume son intention au chapitre 3, les versets 17 à 18, où il... Oui, on peut lire d'ailleurs, 2 Pierre 3. Ce serait autour de Martin.
Bien-aimé,
c'est ça? Oui.
Bien-aimé, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen.
Là, j'ai retrouvé cette dans 2 Pierre 1:21 poussée par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Amen. Ouais.
Ouais.
Ouais, parce que
c'est la concordance.
Merci, oui. Parce que c'est vrai que cette épître, elle est vraiment là aussi. Alors très clairement, c'est un des passages, on va voir après, qui est particulier à cette épître, hein, qui appuie vraiment sur l'autorité des Écritures. Hein. Parce qu'à l'époque, ben, il y avait plein de faux prophètes, hein, qui annonçaient plein de choses. Et puis voilà, Pierre, il rappelait qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans la maison du Seigneur.
Je m'excuse, mais je reviens quand même à ce qu'on a dit tout à l'heure avec les langues. Là. Mm-hmm. Si on lit par exemple en acte 2, il est bien marqué, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils disaient les uns les autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et du territoire de Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà.
Comme si on était un rang, tu peux parler plusieurs. Tu fais ton...
Alors j'avais lu un commentaire, hein, qui parlait de la Pentecôte, hein, que je trouve intéressant. Pourquoi aussi 15 langues, tu disais, tu vois,
ouais,
à peu près. Pourquoi aussi autant de langues en fait qui s'expriment dans ce moment-là? C'est un témoignage du Saint-Esprit en fait, parce que des fois, voilà, le Saint-Esprit œuvre, hein, et puis va témoigner quelque chose qui dépasse notre intelligence, hein, c'est sûr.
Je pense que c'était une fois pour toutes, alors, bien qu'après c'est devenu normal, c'est-à-dire que tout le monde reparlait sa propre langue.
Alors moi, je pense que c'était spécifique à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est un peu le seul témoignage qu'on voit, je crois, dans le Nouveau Testament.
C'est une question. Hein.
Ouais, ouais. Mais alors le commentaire disait quoi? Disait que en fait c'était une annonce que voilà, l'Évangile c'est pour toutes les nations. Et ça, c'était une révolution.
Parce que
le salut devenait universel. Les
Juifs étaient jaloux. Hein,
voilà. Voilà. Peut-être ceux qui étaient jaloux disaient, ils s'y sont pleins de vin doux. Mais,
Ça, on le voit dans Jérémie, maintenant. La jalousie du peuple. Puis, quand on a vu Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive, pourquoi? C'est parce qu'il croyait qu'il y avait qu'eux. C'était eux les meilleurs.
Voilà. Alors, c'est vrai que je pense que une situation comme celle-ci peut se reproduire. Tout d'un coup, il y a peut-être quelqu'un qui, poussé par le Saint-Esprit, peut parler à une autre personne dans une autre langue que tu ne connais pas. Et puis la personne va s'ouvrir au Seigneur au travers de ça. Hein. Ça peut toujours se reproduire aujourd'hui. Mais là, je trouvais intéressant cette interprétation, ce commentaire biblique qui disait que c'était vraiment quelque chose de spécifique dans ce moment-là qui annonçait le salut universel déjà. Et puis vous vous rappelez, après, hein, les disciples, au début, ils ont eu un peu de la peine à comprendre que le salut. Pourtant, Jésus, il avait dit que la bonne nouvelle, elle serait prêchée à Jérusalem, en Judée, en Samarie et juste aux extrémités de la terre. Mais là. Samarie, je pense au début, ils avaient déjà de la peine à entendre, et puis extrémité de la terre, là, ils n'ont rien entendu. Hein. Ils n'ont pas compris. Mais nous aussi, des fois, on ne comprend pas grand-chose. Parce que si on a une part de révélation, et puis je pense qu'on n'aura jamais toute la révélation, on est toujours en apprentissage. Tout d'un coup, quand il y a une vérité nouvelle qu'on doit peut-être saisir, qu'on n'est pas saisi jusqu'à présent, bon, les fondements de la foi, on les a, hein, je veux dire, voilà, on va revenir là-dessus. Mais des fois, peut-être ça doit faire du chemin, ou simplement ne serait-ce aussi que quelque part, des fois peut-être dans ce que Dieu nous demande. Comme à l'image de Pierre qui doit quitter sa barque, hein, quitter sa sécurité pour aller à la rencontre du Seigneur, nous aussi, simplement, des fois, sur un plan spirituel, faire un pas en direction du Seigneur, des fois, c'est difficile. Quand on manage tout, quand tout semble bien aller que pour nos vies, moi, je me rappelle, alors je peux donner mon témoignage personnel, le jour où j'ai fait le pas de faire une école de disciples avec Jeunesse en Mission, c'était un peu un pas dans l'inconnu. Et puis on lâche un peu et on fait confiance au Seigneur, on cherche la volonté de Dieu pour nos vies. Et puis Dieu se révèle. Hein. Mais au début, c'est vrai qu'il faut un peu lâcher. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ouais, moi je crois que j'avais prévu de voir un peu la vue d'ensemble de l'épître, mais ça va peut-être nous prendre un petit peu trop de temps. On verra ça peut-être tout à la fin, une fois qu'on aura fait tout le tour de l'épître. Puis comme ça, on va la découvrir gentiment. Alors, juste quelques caractéristiques particulières de cette lettre. 4 éléments. Hein. Alors, ça, parce qu'on vient d'en parler. Elle contient l'une des déclarations les plus précieuses de la Bible quant à l'inspiration, la fiabilité et l'autorité des Écritures. Donc, 2 Pierre 1,
21.
19 à 21. Hein. Je vais la lire dans ma version quand même. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Donc, ce passage-là, peut-être certains grands théologiens devraient le relire, hein, et le méditer. Parce qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Hein. Dans l'interprétation qu'on fait des Écritures, on doit déjà aussi demander la grâce et l'inspiration du Seigneur pour ne pas dire tout et n'importe quoi au sujet de la Bible. Hein. Et qu'en effet, ce n'est pas par une volonté d'homme que la parole nous a été donnée, mais c'est bien poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein. Donc, c'était un philosophe français qui disait la Bible, alors oui, 100% écrite par la main de l'homme, mais 100% inspirée de Dieu. Hein. C'est pas un ange qui a écrit. Hein. Les Mormons, eux, ils ont de la chance. Là, leur Bible, c'est un ange qui l'a écrit. Donc, nous, on n'a pas cette chance-là.
Hein? Oh, rien. Quoi? On est
J'ai pas compris. Mais... Ah, t'as le nom de l'ange?
Ouais, ouais, Glock, ah, mais c'est une connerie. Ah. Oublié. Je ne veux pas la dire.
C'est pas le vrai nom.
Ça s'appelle spécialement.
Ouais, je ne me rappelle plus. Ouais. Ça, c'est dit. Donc, l'inspiration des Écritures, hein, on y croit, et nous devons y prêter attention et y mettre notre espérance. Hein. Donc voilà, ça c'est un des traits particuliers de cette lettre.
C'est une lettre qui s'adresse, il faut peut-être, tu l'as dit, mais il faut pour leur dire, qui s'adresse à l'internat, donc l'église interne, hein, donc au fonctionnement de l'église, de la première église, hein, donc, avec justement les faux enseignements qui arrivaient, etc.
Qui
mais ça fait partie aussi de cette période de persécution, hein. Persécution des chrétiens aussi. Donc ils sont fortifiés par les enseignements de la première lettre. Puis la deuxième, c'est plutôt pour les mettre en garde contre les faux enseignements.
Ouais, puis si on pense un petit peu à la chronologie, il s'est passé 5-6 ans entre les deux écritures. Ouais, ouais. Donc, il y a les chrétiens, ils ont été persécutés. Et puis, après les persécutions, vient quoi? Les faux docteurs. Franchement, il y a de quoi avoir les épaules qui et les bras qui tombent ballon. Hein. C'était pas simple. Hein. Mais ça montre bien que la vie chrétienne est pas un long fleuve tranquille, hein, mais un combat de tous les instants. Avec la victoire du Seigneur, et puis ces témoins qui nous ont précédés, aujourd'hui qui se trouvent auprès du Seigneur, ce sont des exemples aussi pour nous. Et si un Pierre a pu demeurer ferme dans la foi, alors qu'on se rappelle, hein, comme il a renié Jésus à un moment donné, si un Pierre a pu, non pas par ses propres forces, mais on verra si je pense qu'on aura le temps de juste lire les salutations de la lettre. On verra qu'on est mis au défi quand même par Pierre. Au niveau de la foi, on est mis au défi. C'est un Pierre qui vraiment essaye d'amener le peuple de Dieu à un peu plus grand, quoi, hein, un peu plus loin dans la maturité. Alors, caractéristiques, le chapitre 2 et l'épître de Jude sont remarquablement similaires dans leur dénonciation des faux docteurs. Jude, qui à une période ultérieure, s'est heurté aux mêmes problèmes liés aux faux enseignants. C'est peut-être, hein, bon là on est dans le peut-être, hein, servi des écrits inspirés de Pierre pour appuyer ses propres arguments. Hein. Donc on a vraiment des points assez proches entre le chapitre 2 de Pierre et l'épître de Jude. Et c'est vrai que quand on lit l'épître de Jude, c'est inspirant par rapport aux faux enseignants, hein, parce qu'il est, et Pierre aussi, hein, ils mettent des choses à la lumière qu'on va retrouver de manière régulière de la part d'un faux docteur. Petit témoignage personnel, j'ai une sœur que j'ai connue à Yverdon, qui était passée par le baptême de notre église, qui m'a envoyé, mais vraiment, c'est un pasteur africain qui est quand même connu de sa théologie, qu'il est un peu à côté de ses baskets. Je l'ai averti, je lui ai dit non, mais attention, là, ce frère-là, il faut pas suivre ses enseignements. Six mois après, elle me renvoie de nouveau un lien qui va vers ce bonhomme. Je me dis, ouais, c'est dur, hein, les gens, des fois, ils veulent pas se laisser avertir. Pourquoi? Parce qu'un faux enseignant, il va venir avec un contenu qui est séduisant. Hein, et qui te flatte. Voilà, qui te flatte, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Bon, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des faux enseignants. Donc, encore une autre caractéristique, le chapitre 3 est l'un des chapitres classiques du Nouveau Testament sur la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le dernier chapitre, hein, c'est une épître plus courte. Et dernière caractéristique particulière de cette épître, indirectement, Pierre se réfère aux lettres de Paul comme faisant partie des Écritures inspiré en les incluant au reste des Écritures. Ça, on peut lire 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Ce serait le tour à Ruth.
Oui. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres et il parle de ces choses. Il y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordant le sens comme elles le font des Écritures pour leur propre ruine.
Voilà. Donc, on voit qu'ici, Pierre reconnaît aussi l'autorité de Paul comme apôtre, hein, et l'autorité de ses lettres. Hein. Il y avait, voilà, la Bible était gentiment en train de se mettre en place.
Oui, puis Paul l'avait même repris. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Même, Quand il était allé chez des juifs, mais qu'il voulait leur faire de nouveau le rituel juif.
Oui.
Hein, c'est ça, je crois.
C'est ça, oui. Ouais. Ouais.
Puis il faisait semblant que c'était pas le cas, ou je sais pas, un truc un peu.
Ouais. C'est étonnant dans la version que j'ai là, c'est la version Parole Vivante. Il dit, c'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ça veut dire qu'ils n'étudient pas la parole. Mmh. Ils lisent, puis hop, sans étudier. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mmh. Mmh.
Mmh. Oui, les gens mal affermis.
Ouais. Change le sens. Ouais.
C'est vrai que, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, l'étude biblique est pas à la mode.
Non. Non.
Les gens vont plutôt aller écouter des séminaires sur ceci ou cela, qui vous promettent monts et merveilles. Mais l'étude biblique, c'est un peu des fois le parent pauvre dans l'église. Hein. Une fois encore, hein, je parle de l'Église de manière générale. Et pourtant, c'est une telle source d'enrichissement. Hein. C'est intarissable. Hein. On n'en a jamais fait le tour. Hein. Alors, 2 Pierre 1. On va juste lire les salutations. Qui sait qui ce serait le tour de 2 Pierre 1, les versets 1 et 2.
De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur.
Alors, t'as zappé où il n'y a pas?
Ouais.
Non. Ah, moi, j'ai plus que ça, alors. Hein. Non, moi, j'ai par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. la fin du verset premier.
Par la connaissance de Dieu.
Ah, il l'a lu.
Connaissance de Dieu.
Alors moi, c'est moi qui ai zappé.
C'est des versions qui sont.
Mais il l'a lu.
C'est des versions qui sont un peu différentes.
Ah, j'ai croché à la virgule. Non,
non, non, c'est moi qui étais nommé poussé ailleurs. Alors, dans ces salutations, on voit qu'il y a deux prénoms, hein, Simon et Pierre. Alors, Simon, c'est en fait son nom d'origine hébraïque, qui se dit en hébreu, ça se dirait Shimeon, et qui veut dire celui qui écoute, hein, ça c'était son nom hébreu. Et puis, il avait reçu, on se rappelle, un nom grec de la part de Jésus, hein. Donc Jésus n'était pas contre la culture grecque, hein, qui voulait dire roc, hein, pierre, Petros, un grec. Donc on voit qu'il y a ce double nom, et il n'a pas honte de les citer les deux, hein, Simon, Simon, Pierre. Merci.
Bon. Oui, j'ai précisé là-dessus.
Et puis dans la présentation... Il porte deux titres. Lesquels?
Serviteur et apôtre.
Voilà. Donc, en effet. Et puis, serviteur, c'est un terme assez dur, là. C'est doulos, hein. C'est l'esclave, même. Hein. C'est l'esclave du Christ. Et puis, apostolos, en grec, c'est apôtre. Et puis... Moi, je vous propose, on s'arrête juste quelques instants sur ce terme-là, apôtre, parce qu'il peut avoir différentes significations dans le Nouveau Testament. Donc, apôtre, on peut tout de suite penser aux 12 disciples, hein, en effet, ça c'était, ils avaient reçu ce titre-là d'apôtre de la part du Seigneur Jésus. Mais apôtre peut aussi avoir le sens d'ambassadeur, de messager, de délégué. Ou encore, dans un sens plus élargi, d'enseignant chrétien imminent. Quand on voit ces différentes significations,
j'ai dû réfléchir.
Des chrétiens reconnus, ou je ne sais pas comment dire autrement. Ouais. Alors...
Éminent. Ah, oui.
Éminent.
Ouais. Un peu plus au pas qu'ils se croient.
Cette terminologie, elle vient pas de moi, elle vient d'un dictionnaire biblique. Hein, donc, je m'excuse. Hein. quand on pense, donc, apôtre, les douze disciples du Seigneur, hein, apôtre, simplement une personne qui est envoyée, qui est un délégué, un ambassadeur, un messager de la part du Seigneur, ou bien apôtre aussi dans un sens élargi d'un enseignant chrétien éminent. Ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, des fois, il est mal compris, ce titre d'apôtre. Pourquoi? Parce que moi, à mon époque, on avait suivi, c'était un peu à la mode, peut-être vous aviez eu entendu ceci, sur les cinq ministères, il y avait un temps où on avait beaucoup d'enseignements sur les cinq ministères, et puis on voulait une restauration du ministère apostolique. Hein. Peut-être vous avez entendu à votre époque aussi ce genre d'enseignement. Et puis, l'apôtre, dans ses enseignements, était vraiment la personne au-dessus de la pyramide. Hein. C'était le serviteur de Dieu.
Il y a encore une assemblée comme ça, les néo-apostoliques.
Bon, ça c'est une
oui.
secte. Hein.
Ben oui,
mais, ouais. oui, oui, alors ils étaient vraiment dans cette ligne-là.
Ils étaient dans cette ligne-là. Ouais. Moi, je me rappelle avec mes clients, quand je leur parlais du Seigneur, je disais qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ils n'y croyaient pas. C'est que leur apôtre qui les pardonne et qui leur donne le Saint-Esprit. J'ai dit, vous êtes bien malheureux. Alors, si vous mourrez à ce temps, donc...
le pardon passait par ces hommes.
Oui. Non, c'était...
C'était quoi ce problème?
Oui, justement.
Alors, comment comprendre justement cette terminologie apôtre? Et puis, tout particulièrement, là, je fais une petite parenthèse, mais que je trouve quand même importante. Peut-être je vous en ai déjà partagé une fois ou l'autre un petit peu, mais parce que cet enseignement sur les cinq ministères, on se retrouvait avec, on peut juste prendre, puis après on reviendra dans deux pierres, on se retrouvait facilement avec un enseignement dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Il y avait aussi les apôtres. Ah oui, à l'époque. Ah oui.
Il y a quand même aussi, oui.
Merci.
Oui, et aujourd'hui, un ambassadeur, on l'appelle son éminence. C'est aujourd'hui encore comme ça.
Oui, dans le milieu...
On va s'adresser à lui comme ça, c'est son éminence.
Dans le milieu catholique?
Non.
Ah.
Les ambassadeurs politiques,
oui, on dit éminence.
Ah oui.
Les
hommes
qui ont une autorité, c'est éminence, c'est qui ont un pouvoir, qui ont une autorité.
C'est les ambassadeurs.
Oui, c'est comme ça. Le jour où j'en croiserai un, je serai comment m'adresser à lui, hein, pour mettre les pieds dans le plat. C'est vrai, on perd hein, cette culture-là. Alors, Éphésiens 2, verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ce passage-là, comment le comprendre? Parce que quand on entendait les enseignements sur les cinq ministères, eh ben, il fallait un apôtre pour fonder une église. Alors, c'est vrai qu'il y a, des gens qui ont un appel particulier sur leur vie et qui sont vraiment des pionniers et qui voilà, hein, ben, on peut penser à votre ancien pasteur ici, hein, Ronald, hein, lui qui était vraiment un implantateur d'église et tout. Donc il a clairement été utilisé de la part du Seigneur de cette manière-là. Il avait aussi des qualifications et une onction du Seigneur dans ce domaine-là. Mais l'enseignement qu'on avait sur les cinq ministères, l'apôtre, ça devenait vraiment un surhomme. Il était au-dessus des autres. Et puis il était redevable entre un conseil d'apôtres, en fait. Mais autrement, il avait vraiment pleinement autorité dans l'Église. Et ce genre d'enseignement, suivant dans quelle Église vous allez le trouver. Hein. Alors, comment ici comprendre apôtre? Parce qu'eux vous diront, ben, il faut que Dieu suscite des apôtres pour pouvoir fonder l'Église. Ton Église, elle était fondée par quel apôtre? Écoute, il n'y en a pas eu. Ben, t'es mal barré hein, dans leur théologie. Mais ici, apôtre, en fait... On pourrait comprendre justement soit
envoyer
les disciples du Seigneur ou soit justement ces enseignants éminents, hein, comme un Paul, parce qu'un Paul, entre guillemets, il a porté le titre d'apôtre, mais il n'était pas directement disciple du Seigneur, hein, mais il a porté le titre d'apôtre, comme un Marc, justement aussi, hein, ce fameux Marc qui a réécrit, qu'on voyait dans les salutations à la fin de la première épître. Qui aurait écrit l'évangile de Marc, hein, Marc aussi, quelque part, on pourrait lui donner un titre d'apôtre aussi apostolique. Hein. Et donc, en fait, ici, il nous est parlé, une fois encore, de l'autorité, en fait, des Écritures. Hein, des Écritures qui sont vraiment été inspirées par le Seigneur pour les apôtres et pour les prophètes. En fait, ça, ce serait une terminologie pour nous dire le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, on dit la loi et les prophètes, ça c'est le résumé de l'Ancien Testament pour les Écritures. Et puis pour les Écritures, pour le Nouveau Testament, ben, le résumé on l'aurait ici. Les apôtres et les prophètes. Notre foi a été fondée là-dessus, pas fondée sur un homme, mais fondée sur les Écritures qui ont pleine autorité. Voilà, en tout cas, moi j'en fais aujourd'hui, j'en fais cette interprétation. Hein. Vous avez été édifié sur le fondement. Et puis, en fait, je ne sais pas si j'arrive à trouver là. Mince, où est-ce que j'ai marqué ça? Alors. Oui, le fondement ici, on pourrait aussi traduire sur le commencement. Hein, vous avez été édifié sur le commencement des apôtres et des prophètes, sur ce que les premiers apôtres et les prophètes, en fait, les écrivains du Nouveau Testament, ont démarré.
Quoi. Il y a un passage qui parle du fondement des apôtres, justement. Il faudrait que je le retrouve, je le cherche dans la concordance.
Ben, je ne sais pas si c'est là, je pense à un autre.
Non, non, c'est possible, c'est celui-là.
Ouais. Ouais. Alors voilà, donc moi je trouvais quand même intéressant une fois un petit peu de mettre en perspective apôtre, qu'est-ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament, parce que si on est mal édifié, ben il y en a peut-être qui vont tordre le sens des Écritures, si j'ose dire un peu comme ça aujourd'hui. Hein. Alors oui, on peut reconnaître un ministère apostolique, mais alors il faut voir dans quelle fonction, et puis comment est-ce que vous le comprenez, et puis quel est le statut de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être soumis aux autres frères et sœurs de l'Église, quoi? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a une révélation tellement supérieure qu'il peut marcher par lui-même parce que le Dieu l'a placé au-dessus de tous, quoi? Donc, voilà.
Ouais, mais bon, moi, ce qui me frappe quand même dans ce début, c'est que, de la part de Simon-Pierre, en premier, serviteur. Mm-hmm. Donc on voit l'humilité, on voit qu'un serviteur et
esclave. Mm-hmm.
Voilà. Donc on voit l'humilité ou le brisement d'un Pierre qui était toujours en avant, qui avait toujours le dernier mot parmi les disciples. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on voit? On voit cette humilité qui est maintenant là. Où il se dit serviteur et on le voit pas dans la première épître parce qu'il parle, il dit qu'il est directement apôtre de Jésus-Christ. Par contre, on l'avait déjà lu, je m'excuse de revenir un petit peu en arrière, mais je crois que c'est intéressant comme dans le contexte, c'est qu'au chapitre 5, il dit « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux. »
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est ça. On voit là cette humilité de Pierre qui n'était pas l'humilité naturelle, si on veut bien, qu'il a eue au départ, mais qu'il a été forgé par les souffrances.
C'était Ephésiens 2, 20 que tu avais lu.
Oui, oui.
Ouais, parce que je l'ai ici aussi. Ouais.
Sur quand tu traverses des épreuves, des souffrances, voilà. Tu redescends ton piédestal.
Donc ça confirmerait ce que tu disais, oui. Que ce n'est pas un piédestal d'être apôtre.
Non.
Ce n'est pas d'être sur un piédestal.
Ouais, ouais, ouais. Et puis comme tu révélais là, rappelais ce verset aussi, voilà, un moins ancien comme vous, en effet, Pierre, même qu'il était... Mm-hmm. Disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu l'as rappelé aussi, il était repris par Paul, qui lui-même n'était pas directement un disciple, mais qui était reconnu dans sa fonction apostolique. Quoi. Donc voilà, la soumission aussi dans le collège des anciens, hein, c'est aussi ça. Et puis, juste pour terminer pour ce soir, par rapport aux salutations, à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Je disais, voilà, je parlais avant que Pierre nous met au défi d'avoir une même foi que la sienne. C'est pas rien. Hein? C'est pas rien parce que Pierre, il est là dans ses derniers jours de vie. Mais il exhorte et il croit que les gens qui vont lire sa lettre ont la même qualité de foi, et je dirais une foi sincère, fondée sur les Écritures, et une foi humble. On peut se rappeler du thème central de cet épître, la vérité fidèle en opposition aux faux docteurs, et que en fait dans cette salutation là, on retrouve déjà ce thème central intégré quelque part. Hein. La même foi que la nôtre, pas n'importe laquelle. Hein. Pas celle qui est à la vogue, à la mode actuellement, mais vraiment celle qui est basée sur les Écritures. Et c'est ce qui est merveilleux encore aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne des frères et des sœurs qui ont vraiment ce désir aussi d'avoir une foi fondée sur les Écritures. Voilà.